Mais pour aujourd'hui, on est dans notre série sur les couleurs de l'espoir. Rappelez-vous combien il y a de couleurs? Combien on a de caractéristiques? Il y en a 10, imaginez-vous donc, 10 couleurs. Je vais faire un petit récap avec vous pour qu'on puisse se rappeler un peu. La première chose qui nous distingue, parce que c'est une série qui affiche nos couleurs, mais qui dit aussi qu'est-ce qui distingue l'Église de l'espoir en tant qu'Église. Et la première chose, c'est qu'on est une Église locale, on croit à l'Église locale. Oui, il y a une Église universelle, mais c'est local que ça se passe. La deuxième chose qu'on a vue, c'est que la Bible, la parole de Dieu, ce livre fantastique est au cœur de notre Église ici. Nos valeurs, tout ce qu'on est centré au travers de la parole de Dieu. On croit aussi, comme troisième couleur, à une conversion individuelle. C'est pas juste de venir à l'Église qui fait de toi un chrétien ou un enfant de Dieu. C'est pas d'être membre de l'Église qui fait de toi un enfant de Dieu. C'est d'avoir rencontré le Seigneur Jésus, d'avoir une conversion individuelle. Autre couleur, on croit qu'on est des adorateurs émerveillés, non pas par une expérience particulière, mais plutôt que la parole de Dieu vient susciter en nous des émotions. Et ça, c'est une expérience fantastique qu'on a, et c'est ce qui nous amène dans l'adoration. On croit aussi à la centralité de l'Évangile, c'est-à-dire que l'Évangile, c'est pas juste un message pour la conversion, mais à chaque jour, on a besoin de se prêcher, de se reprêcher l'Évangile. Pas pire, hein? Autre chose, on est une église congrégationaliste, c'est-à-dire qu'on croit que l'autorité suprême, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit des pasteurs n'est pas plus puissant ou élevé que l'Esprit de tous les membres, et on arrive à prendre des décisions et comprendre la direction de Dieu à travers toute l'église au complet. Congrégationaliste, complémentariste, complémentarien, hommes et femmes, complémentaires pour les rôles que Dieu leur a assignés, hommes et femmes. Et c'est une autre de nos couleurs. Une autre couleur qu'on a ici à l'espoir, c'est formation disciples. On est une église qui forme des disciples. C'est une priorité, c'est comme ça depuis le début de l'église. La semaine passée, on a vu qu'on est une église qui rayonne, une église de collaborateurs qui collaborent. Et ensemble, on est une église qui rayonne jusqu'aux extrémités de la terre. Bon, dernière couleur. On est une église communautaire, c'est-à-dire une église au service de sa communauté. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour rechercher le bien de notre ville ici à l'Espoir? Il y a plein de choses. Par exemple, Bouffe pour tous. Bouffe pour tous, où on aide les démunis. On collabore très proche avec les autorités. On a des partenariats. On s'est même impliqué aussi avec Red Frog pour aider les étudiants du Cégep Université. On a des gens chez nous qui sont sentinelles. Qu'est-ce que c'est que la sentinelle? Les sentinelles, c'est des personnes qui sont formées pour prévenir le suicide et les situations de crise. On a un groupe Connexion qui a un jardin communautaire dans sa communauté. On a notre bâtiment qui est au service de notre communauté. Une fois par année, on fait une fête de la famille pour afficher à la communauté, aider la communauté. On a une vision pour le cégep. On veut avoir un impact à Longueuil. On aimerait et on prie que ça continue, qu'on ait encore plus d'impact dans la communauté. Mais aujourd'hui, je n'ai pas envie qu'on fasse une espèce de CV, là, de dire wow, voici tout ce qu'on fait, puis on va sortir d'ici. Wow, c'est bien le fun. Mais où je veux nous amener ce matin, ce n'est pas dans le quoi, même pas dans le comment, mais plutôt dans le pourquoi. Pourquoi l'aspect communautaire, pourquoi l'idée de rechercher le bien de la ville où nous sommes est quelque chose d'essentiel au point où on dit que c'est une des couleurs de l'espoir. Et c'est ce qu'on va voir ce matin à travers la parole de Dieu. On va voir trois super raisons. C'est vraiment trois raisons principales pour être contagieux dans notre ville en aimant notre communauté. Fait qu'on va prier. On a deux passages ce matin, puis Julie va nous lire la parole de Dieu. Prions. Seigneur, ce matin, on a besoin que les yeux de notre cœur soient tout grand ouverts, les oreilles de notre cœur soient tout grand ouverts pour qu'on puisse comprendre ta volonté à travers l'Église, à travers ta parole. Je te prie, Seigneur, de parler à notre cœur. On veut être enseigné, on veut être transformé. Fait que ce matin, on a une attente envers toi, que Jésus, par le Saint-Esprit, tu nous bouleverses. Pour que nous, Seigneur, on puisse de plus en plus exposer ta gloire au monde, être à l'image de Jésus. Et on te remercie, Seigneur, pour ce grand don que tu nous donnes de ta parole. Et c'est en ton beau nom que nous te prions. Amen. Micro.
Et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Psaume chapitre 57, versets 10 à 12. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre.
Amen. C'est la parole de Dieu. Quel verset, quel passage incroyable. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. On va commencer avec une première raison. La première raison est déjà mentionnée dans le premier passage. Parce que votre bonheur dépend du sien. La première raison, c'est j'en fais partie. Je fais partie de ce monde-là. Le contexte ici, là, c'est l'Exode. Le peuple juif a été déporté. Ils sont dans un pays étranger, à la merci d'un roi étranger. Et là, par le biais du prophète Jérémie, Dieu est en train de dire à son peuple d'être sage et judicieux, en disant, écoute, on est dans une situation un peu similaire où il y a toujours cette interdépendance-là qui se passe entre notre environnement et nous. En fait, oui, notre bonheur ou notre bien-être dépend de la ville où on est. Mais en même temps, le salut de la ville où on est dépend de qui on va être comme chrétien. On est, oui, des étrangers et des voyageurs sur la terre. C'est vrai. On le voit dans Hébreux 11, verset 13, quand on parle des héros de la foi, on nous dit « c'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Mais maintenant, ils en désirent une meilleure cité, on parle, c'est une cité céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et ça, c'est une réalité, dans le sens que notre cœur est au ciel, parce que notre vraie maison a été préparée par Jésus, il vous a préparé une place. C'est une réalité, mais nos pieds sont sur la terre. Cœur au ciel, pieds sur la terre, c'est pas parce que notre cité n'est pas ici qu'on doit créer une espèce de bulles sans contact avec les gens qui nous entourent, une espèce de monastère. Je trouve que dans le mot monastère, des fois, il y a le mot austère, puis c'est un peu ça aussi, tu sais, de ne pas avoir de relation avec les autres autour de nous. Si Dieu voulait qu'on n'ait aucune relation avec les gens autour de nous, ça serait très clair. Même que Paul arrive dans une lettre qu'il écrit aux Corinthiens, au premier épître aux Corinthiens, chapitre 5, versets 9 et 10. Il dit, « Bon, dans ma dernière lettre, je vous ai écrit de ne pas avoir de relation avec des personnes vivant dans la débauche. » Et là, il est enragé, il dit, « Wow, attends, mais, je ne voulais évidemment pas dire qu'il faut éviter toute relation avec ceux qui, dans ce monde, mènent une vie de débauche ou avec les avares, les voleurs, les adorateurs d'idoles. » Car alors, il vous faudrait sortir du monde, ce qui n'est vraiment pas le plan de Dieu pour nous. L'idée, c'est dans « aime ton prochain, ton prochain ». J'ai rien à perdre. Mon cœur est au ciel, je sais déjà mon espérance. J'ai le pactole au ciel qui m'est promis par la foi. J'ai tout à donner à mon prochain. Dans Galates, Paul disait aussi au chapitre 6, verset 10, il disait « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. » Il y a une priorité, mais on ne doit pas négliger le bien envers tous. Bien, tu sais, il ne faut pas tomber non plus dans le pharisianisme. Là. Vous connaissez un peu l'histoire de la parabole du Samaritain? Je vais vous lire ça. Jésus est en train d'enseigner, puis il y a quelqu'un qui le teste. Il dit, c'est quoi les plus grands commandements? Et là, bon, le le docteur de la loi dit, oui, ben, aime ton, le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, bon, c'est bon, fais de même. Et là, le gars veut justifier parce qu'il se sent un peu mal. Il dit, ouais, mais c'est qui mon prochain? Tu sais, parce que c'est pas, peut-être pas si évident que ça. Et Jésus lui raconte une parabole en disant, bon, par exemple, il dit, bon, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, tombe au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Il a fait comme s'il ne l'avait pas vu. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre aussi. Bon, les sacrificateurs, les lévites, c'est clair qu'ils ne voulaient pas toucher à des morts parce qu'ils se seraient rendus un peu. Ils n'auraient pas pu faire le service. Ils disaient oh, non. On pensait qu'ils étaient morts. Tu sais, ils l'ont chargé de coups. Il s'en allait le laissant à demi-mort. Il n'était pas fort. Hein? Un Samaritain, qui habituellement sont vraiment à l'opposé des Juifs, qui voyageait là, était venu, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies, versa de l'huile, puis du vin, puis le mit sur sa propre monture. Ça veut dire que lui, il a marché à côté. Le conduisit à une hôtellerie, prit soin de lui. Le lendemain, 2 deniers, il les donne à l'autre. Il dit, soin de lui, puis ce que tu vas dépenser de plus, je vais te le rendre à mon retour. Et là, Jésus pose la question, lequel de ces trois, vraiment, a été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, ben va, puis toi, fais de même. L'idée est assez claire, est assez simple. Pas besoin d'un gros dictionnaire pour comprendre que mon prochain, c'est pas juste entre nous autres ici. Tu sais, on fait partie de cette ville-là, on fait partie de ce monde-là, et c'est pas juste une façon d'évangéliser. C'est une façon d'être, parce que c'est naturel. Faire aux autres ce qu'on aimerait qu'ils nous aiment à nous, qu'ils nous fassent à nous. Pierre dit même de faire, c'est un acte honorable. 1 Pierre 2,17 dit « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi, honorez tout le monde. » Le mot « honorer », c'est comme dans « dis c'est quoi tes honoraires à toi? » Tu sais, c'est l'idée de quelle valeur on attribue. Par exemple, si j'avais un esclave, je cherchais ses honoraires, honorer. Combien il vaut? Combien est le prix qu'on attribue à ceux qui nous entourent? Combien ça vaut une personne? C'est un peu ça l'idée là, en arrière de ça. Quelle valeur on attribue à ceux qui nous entourent? Une bonne question. Première raison, j'en fais partie. J'en fais partie. Et nous étions tous de leur nombre. Hein? Il dit ça aussi à un moment donné, Paul. La deuxième partie est un peu un préambule au deuxième passage. On monte la coche d'une... On monte le niveau. Bon, vous allez être d'accord avec moi quand je vous dis que notre exemple suprême, c'est Dieu. Jésus, est-ce que vous voulez faire comme Jésus? Cri. Voulez-vous être comme Jésus? Oui, bon. Ben oui, on veut être comme Jésus. Ben, c'est de suivre l'exemple de Jésus. Et c'est bon de voir comment Dieu, lui, même Dieu le Père, comment il se comporte dans un monde en déchéance, un monde ennemi de lui, un monde corrompu, là j'ai pris des notes, qui a perdu sa pureté, un monde condamné, destiné à être détruit, bien, rechercher le bien du monde qui nous entoure, bien, Dieu fait ça tout le temps. Dieu fait ça tout le temps. Bien, voyons donc, Michel, qu'est-ce que tu dis là? Vous en voulez des preuves? Suivons l'exemple du Père. Matthieu 5:42, 5:45, on est dans le sermon sur la montagne, œil pour œil, dent pour dent, si quelqu'un te demande de faire un mille, fais-en deux avec lui, te demande ta chemise, te dit aussi ta veste. Pourquoi? Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait, écoutez ça, il fait lever son soleil, c'est son soleil là, on s'entend? Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. On connaît ce verset-là, là. Aimez nos ennemis, faites du bien à ceux qui nous persécutent. C'est suivre l'exemple du Père. Suivre l'exemple de Jésus dans le contexte du sermon sur la montagne, c'est fort. C'est fort pour dire, OK, wow, j'ai une certaine responsabilité. On va encore monter le niveau un peu. On est à Lystre, une ville. Paul s'en va évangéliser là. Bon, il y a un miracle qui s'opère. On dit, c'est des dieux! Puis là, on commence à vouloir déballer toute la quincaillerie pour honorer les dieux qui sont arrivés. Et là, Paul dit, non. Mais on s'en vient vous parler d'un dieu qui, lui, est le dieu qui... Vous ne le connaissiez pas, vous le cherchiez à tâtons, mais regardez, il a cessé, lui, ce Dieu-là, de rendre témoignage de ce qu'il est. Dieu n'a cessé de rendre témoignage de ce qu'il est. Acte 14, 17. Quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance, et écoutez ça, en remplissant vos cœurs de joie. Wow! Des gestes concrets, là, que Dieu fait au quotidien, sans arrêt, constamment, nourrissant, réconfortant un monde perdu, il rend témoignage de ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il est, Dieu? Dieu est bon. Sa bonté est... Psaume 145 dit, « L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. » On est là pour rendre témoignage de l'Évangile et rendre témoignage de ce qu'il est, pour glorifier notre Dieu à travers la terre. Et qu'est-ce que Dieu est? Dieu est bon. Dieu est bon. On exprime Dieu sur cette terre en étant les membres du corps de Christ. On l'a vu la semaine passée. Vous êtes les membres du corps de Christ, chacun pour sa part, à travers les dons spirituels, les uns avec les autres. C'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres que le monde saura qu'on est ses disciples. Mais maintenant, c'est pas tout. C'est pas tout. On représente ce Dieu aimant et secourant. On représente ce Dieu bon, passionné par l'humanité, près de ceux qui souffrent et qui sont dans la misère. On est un phare. Notre sanctification a un but. Dieu dit, veillez à votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit saints. Pourquoi? Philippiens 2, 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs. Des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue. Le mot pervers, c'est qu'il a perdu son chemin et sa pureté. Parmi lequel vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Par la bonté. Par la bonté. À un moment donné, quelqu'un, j'ai déjà prêché là-dessus à plusieurs reprises, et quelqu'un m'est arrivé, il me dit, oui, mais là, dans 1 Jean 2,15, n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde, parce que l'amour du Père n'est pas en vous à ce moment-là. Et ma réponse, c'était, bien, là, j'ai un problème avec Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Parce que les deux aimés dans les deux passages, c'est vraiment agapé. Les deux mondes dans les deux passages, c'est en grec cosmos. Mais c'est qu'il y a une nuance entre les deux, là. Ce que Dieu ne veut pas qu'on aime, c'est le système. C'est-à-dire l'influence, c'est-à-dire tu sais, l'individualisme, le matérialisme, là. Tu sais, ce qu'on voit dans notre société aujourd'hui, l'apitoiement, le manque de courage, des choses qui font qu'on ait des caricatures de chrétiens. N'aimez pas le monde et tout ce système-là, mais ce qui est dans le monde, les gens qui sont dedans, Dieu les a tellement aimés, on sait jusqu'où il est allé par amour pour le monde. J'espère que vous le savez. Et ça, c'est toute sa bonté infinie. C'est la grandeur et l'infini de sa bonté. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Matthieu 5, 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et quoi? Qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et ça met à la table pour la troisième bonne raison. La troisième raison qui nous amène à dire pourquoi je devrais veiller au bien de la cité dans laquelle je suis, mettons Longueuil. Bien, c'est que, franchement, c'est un acte d'adoration. Un acte d'adoration. De désirer le bien, d'être proactif pour le bien de ceux qui m'entourent, c'est une façon d'exposer, je dirais même, ma compréhension de l'adoration envers Dieu. On a lu le psaume, hein, psaume 57, 10, « Je te louerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint C'est la bonté de Dieu, là. Atteint jusqu'aux cieux et sa fidélité jusqu'aux nues. C'est une façon de parler pour dire qu'elle est infinie. Elle n'est pas mesurable, la bonté de Dieu. À cause de ça, je veux te louer parmi les peuples. Je veux t'adorer, je veux dire combien tu es bon, combien tu es grand, je veux agir. Le verset 12, « Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. » On ne parle pas de musique ici, là, on parle d'adoration. Si veiller au bien de ma communauté, c'est suivre l'exemple du Père, puis suivre l'exemple de Christ. Agir concrètement dans le monde, c'est exposer ma compréhension de Dieu, puis finalement, mon adoration. C'est de faire comme le Père. Et plus je fais comme le Père, plus j'expose mon abandon en lui. On manifeste le caractère de Dieu à travers nos actions. Entre nous et envers le monde. Piper disait quelque chose d'intéressant. John Piper. Il dit, si Dieu veut exposer tout ça, c'est pas parce qu'il y a des imperfections auxquelles il tente de remédier, mais plutôt qu'il y a des perfections qu'il désire manifester. Et nous, on est les agents privilégiés pour secourir la veuve et l'orphelin, le miséreux, le malheureux, comme Dieu le fait. Romains 12:1 était écrit dans cette idée-là. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Une façon d'adorer qui a juste du gros bon sens. Faire connaître la gloire de Dieu. C'est le but suprême de l'Église. Faire connaître la gloire et la splendeur de Dieu. C'est pas... Et j'ai entendu ça à quelques reprises ici. C'est comme si on faisait une espèce de choix, comme s'il y avait deux coches à cocher. Soit qu'on prend soin les uns des autres, soit qu'on prend soin de la communauté. Et là, ben, il faut cocher un ou l'autre, tu sais, parce que c'est comme si on avait des ressources limitées. Puis là, ben, on est un peu pogné entre les deux. Fait que bon, c'est un ou l'autre. Tu sais, ou encore, c'est soit qu'on prêche l'Évangile ou qu'on sert le monde. Fait que là, on est là, on dit, ben là, c'est un ou l'autre encore. Ben non, on peut faire comme Jésus et faire les deux. Qu'est-ce qui nous empêche de faire les deux? Sinon, peut-être notre foi minuscule qui dit, oh, on n'aura jamais assez de ressources. Mais franchement, est-ce que Jésus, c'était une question qui se posait quand il est arrivé devant une foule? Une foule qui savait très bien que cette foule-là allait le crucifier, là, tu sais. Et il a été ému de compassion devant cette foule-là. Il s'est mis à les enseigner parce qu'il avait besoin de ça. Et quand ça a été le temps de les renvoyer pour les nourrir, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il les a nourris. Il les a nourris. C'est parce qu'on manifeste la bonté de Dieu à travers nos actions. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations. C'est cet élan d'adoration qui déborde de la salle, qui déborde d'ici, puis qui explose dans notre communauté. Ce n'est pas un choix à faire, c'est juste une façon d'être. Pourquoi? Parce que ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. C'est dans notre passage. Autrement dit, c'est de regarder le monde comme Dieu le regarde. Dieu voit le monde, honnêtement, un monde perdu, comme des brebis qui n'ont pas de berger, avec une compassion, là. L'idée en arrière du mot compassion, c'est que les entrailles, ils ont viré de bord. Tu sais, et d'avoir ce regard-là envers le monde qui nous entoure. Sa bonté atteint les cieux, il est bon envers nous. Il est fidèle d'une manière infinie avec nous. Êtes-vous d'accord avec ça? J'entends pas des gros « Amen! » Tendre la main à la communauté, c'est dire au Père, « Je sais que tu prends soin de moi. Je comprends que tu prends soin de moi. Je crois que tu prends soin de moi et je veux maintenant être un canal de ton amour autour de moi. » Vous savez comment ça marchait chez les premiers chrétiens dans le monde romain là, de l'époque, là, il y a 2000 ans? Il y avait des drôles de coutumes à cette époque-là. Entre autres, c'est que quand tu avais un bébé, puis que tu le présentais au papa, puis là, le papa regardait le bébé, puis fouille-moi. Je sais pas, il y avait quelque chose qu'il n'aimait pas. Oh non, pas encore une fille. Souvent, les filles disent, S'il faisait ça, on prenait le bébé, on l'emmenait à décharge. Vous savez, c'est quoi la décharge? C'est le dépotoir juste à l'extérieur de la ville. Fait que soit qu'il était, le bébé était bouffé par les chiens ou les bêtes qui étaient dans le coin, soit que là, il y avait des marchands d'esclaves. Eux autres, ils voyaient l'opportunité. Ils prenaient le bébé. Si c'était un petit gars, bien, il pourrait devenir un combattant dans les jeux. Il pourrait être un esclave qu'on pourrait vendre. Fait que là, ils l'élevaient. Si c'était une jeune fille, bien, une petite fille, bien, là, il pourrait devenir une prostituée. Fait que, tu sais, ils voyaient l'appât du gain. Savez-vous qu'est-ce que les chrétiens faisaient, eux? Ils jouaient du coude avec les marchands d'esclaves à des charges publiques pour adopter ces bébés-là. Devant, et là, il y a des témoignages là, des historiens de l'époque, où devant les besoins de la ville, quand les gens étaient affamés, quand il y avait des famines, les chrétiens avaient cette réputation-là où on se prive de nourriture pendant 2-3 jours dans notre semaine pour pouvoir avoir de quoi pourvoir à ces personnes-là qui sont vraiment dans la misère. Moi, quand je lis ces choses-là, un livre excellent, c'est l'évangélisation dans l'Église primitive, où vous avez juste à lire Tacite, Pline, puis tu sais, des historiens de l'époque des Romains, et vous allez tout de suite voir que des fois, notre christianisme et leur christianisme, il y a des grandes divergences. Et c'est un peu gênant, parce qu'on est tellement matérialiste. On a tellement peur de manquer de quelque chose. Et à preuve, c'est de voir combien on est ce matin. T'sais, on pourrait être le double. On est saisi par la peur. T'sais, et qu'est-ce que Dieu dirait à un peuple comme ça? Il dit, « N'aie crainte, petit troupeau. Je t'ai donné le royaume. Je t'ai donné le royaume. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Arrête d'avoir peur. Ta cité n'est pas aussi, est en haut. Profite du moment, comme Jésus disait, profite des richesses injustes pour exploser la gloire de Dieu autour de nous. C'est une question de maturité spirituelle. Prendre la décision de faire mourir l'ado spirituel que je suis, qui est toujours centré sur moi, puis de dire non, maintenant, je vais aimer. Je vais aimer. Et je vais aimer mon prochain. Oh, mais qui est mon prochain? Bon, vous réécouterez le sermon. On est des générateurs d'adorateurs. Élève-toi sur les cieux, psaume 57, 12. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Parce que si la mission existe, c'est parce que l'adoration n'existe pas. C'est Piper qui dit ça. Quand je me place en face de mon Dieu, quand je contemple sa face, quand je commence à regarder comment il est, qui il est, sa bonté, sa grandeur, son amour, c'est clair que je suis émerveillé. Dans mon élan d'adoration, je suis ébloui. Et là, je dis, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et comme on l'a vu la semaine passée, je veux rayonner. Il y a un prix. Le prix de Jésus. Pour pouvoir dire, élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Quand mon désir, c'est plus juste de prêcher un message, mais de voir la gloire de Dieu resplendir jusqu'aux extrémités de la terre. Notre mission n'est pas que de prêcher l'Évangile. Notre mission est aussi de refléter la gloire de Dieu dans ce monde. Avec joie, avec des chants de louange, avec le bonheur de dire « Wow, je vois mon Dieu travailler dans ce monde. » Ce n'est pas un choix à faire entre prendre soin de nous ou prendre soin des autres. Ce n'est pas un choix à faire entre prêcher l'Évangile ou servir ceux qui nous entourent. C'est les deux. Sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur, en étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. 1 Pierre 3,15, c'est dans cet esprit-là que Pierre a dit ça. Suivez l'exemple de Jésus. Veillez au bien de notre cité. Priez pour elle. C'est vraiment un acte d'adoration. Ça expose ma compréhension et ma foi envers Dieu. Mais bon, un bon livre. Je ne sais pas si on va le voir. Ouais! Merci, Mélina. How Christianity Changed the World. Je lis mieux que je parle en anglais. Mais Alvin Schmidt. Là, c'est un livre vraiment incroyable. Il y a quelques années, j'ai lu ce livre-là. C'est, oh, Oh! Comment le christianisme a changé le monde moderne? Vous savez que le christianisme est né il y a 2000 ans dans un monde extrêmement barbare, là, comme je vous dis, dans certains rituels de sacrifice païens où l'idolâtre, on sacrifiait des enfants, il y avait du cannibalisme. C'était un monde vraiment difficile à imaginer. Qu'est-ce que l'apport du christianisme a eu pour arriver à aujourd'hui, là, 2020? Et là, je parle pas de science, je parle pas de musique, je parle pas d'architecture, je parle pas d'art visuel, parce qu'il y a aussi là que le christianisme a eu un impact profond sur notre civilisation. Je vais juste vous déballer des exemples et vous allez voir comment Dieu peut faire des choses extraordinaires à travers des gens bien ordinaires. Parce que chacun des points que je vais vous citer sont nés de chrétiens qui avaient une motivation, celle de voir la gloire de Dieu rayonner dans leur environnement. Puis on commence avec la dignité humaine. Résister contre les infanticides, l'abandon des enfants, contre l'avortement, les jeux du cirque, hein, les sacrifices humains, le suicide, l'esclavage. On parle d'élever la moralité sexuelle, instituer le mariage comme quelque chose de clair, contre la débauche, la bestialité, la prostitution, les orgies, la pédophilie, l'adultère. La liberté et la dignité de la femme, élever le statut de la femme, protection des veuves, protection des jeunes filles. La femme n'est plus un objet, plus une prostituée là, tu sais, qu'on vend au marché. La femme a un rôle maintenant. C'est le christianisme qui a amené ça. Tu sais. La charité et compassion, on partage les biens en commun, le monde pour les pauvres. C'est la compassion. Vous savez que la compassion, il y a 2000 ans, c'était un défaut. Il y a eu comme un switch grâce au christianisme. La compassion est devenue une innovation chrétienne. Les orphelins, prendre soin des orphelins, prendre soin des personnes âgées, prendre soin des handicapés, abolition du travail pour les enfants, les asiles pour les nécessiteux, hein, les fonds d'aide pour les pauvres, secourir les aveugles et les lépreux, c'était des innovations chrétiennes. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont, Non, il y a eu des époques où ça ne se passait pas comme ça. Si tu naissais aveugle, probablement que ton espérance de vie était très, très, très raccourcie. Les hôpitaux et soins de santé, pour les malades psychiatriques. Une innovation maintenant, un rôle dans les hôpitaux avec la nurse, la garde malade ou infirmière. La Croix-Rouge, innovation chrétienne. L'éducation, pour tous. Oui, oui, même les pauvres. Éducation gratuite. Éducation pour les hommes et pour les femmes. Le concept d'éducation, même pour les enfants, là, pour les sourds, pour les aveugles, l'école du dimanche, sont déjà au courant. Les premières universités modernes, c'est des innovations chrétiennes. Les collèges américains, ce qu'on dit, le cégep, c'est innovation chrétienne. Travail et économie, rendre le travail honorable, rendre le travail avec une éthique de travail, avoir le droit des travailleurs et des libertés individuelles. Avant même les syndicats, les chrétiens ont innové, là. Liberté économique de la classe moyenne, le partage des biens, l'aide sociale, le chômage, un temps raisonnable de travail. C'est encore des chrétiens qui ont innové. Liberté, justice, équité devant la loi, droit naturel, déclaration d'indépendance, liberté des droits individuels, liberté de religion, égalité des individus, séparation de l'Église et de l'État, les droits civiques. Et ça, j'en ai coupé, là. Quand Dieu prend des gens ordinaires, qui réalisent qu'ils sont vraiment ordinaires, il peut faire des choses extraordinaires quand notre projet, c'est de voir la gloire de Dieu rayonner jusqu'aux extrémités de la terre. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. J'invite les musiciens à s'avancer. Musicienne. Quand notre motivation, c'est le désir de voir la gloire de Dieu inonder le monde, le Seigneur a une matière brute pour pouvoir avoir un impact parce que sa bonté est sans limite et sa bonté n'est pas arrêtée, sa bonté continue. Et ce que Dieu veut, c'est avoir cette interaction-là avec nous pour qu'on puisse être un outil entre ses mains et que sa gloire rayonne jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, à l'espoir, c'est une de nos couleurs. C'est une des couleurs qui nous caractérise. C'est une couleur qui est là depuis des années Et ce n'est pas terminé. Ce matin, on ne voulait pas tant voir le quoi et le comment, mais plutôt le pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est important, cette couleur-là, pour l'Église de l'espoir? Bien, c'est une façon d'exposer notre amour pour Dieu. C'est une façon d'exposer à Dieu combien il est grand, combien on a foi en lui. Puis c'est même un signe de maturité spirituelle. Prions. Seigneur Jésus, ce matin, on se tournait vers l'extérieur. Aide-nous à prendre tes lunettes et à voir le monde comme toi tu le vois. Aide-nous, Seigneur, à être des innovateurs comme tous ces chrétiens dans le passé qui ont transformé un monde barbare qui sacrifiait des enfants à ce qu'on est aujourd'hui. Que, Seigneur, on ne se laisse pas décourager parce que le monde vole nos valeurs. Mais nous, Seigneur, on veut juste voir ta gloire resplendir jusqu'aux extrémités de la terre. Notre prière ce matin, c'est « Utilise-nous, Seigneur. Fais de nous ce que bon te semble. » C'est en ton beau nom que nous te prions, Jésus. Amen.